France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
C'est un terme que l'on entend peu, mais qui a réapparu au début de l'été à la faveur de deux actualités, la fraternité. Cet obscur besoin de fraternité, a-t-on pu lire ici et là dans la presse après la victoire de la France à la Coupe du Monde et les embrassades géantes sur les Champs-Élysées et partout en France. La fraternité, c'est aussi un, et surtout un terme repris par le Conseil constitutionnel le 6 juillet dernier pour censurer le délit de solidarité à l'endroit des étrangers en situation irrégulière en France. Je cite la décision des sages. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Il découle de ce principe la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Bonjour Guillaume Leblanc. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, écrivain, professeur de philosophie à l'université Paris-Est-Créteil, auteur avec Fabienne Brugère de « La fin de l'hospitalité » chez Flammarion, paru l'année dernière et plus récemment d'un manifeste « Vaincre nos peurs et tendre la main » chez ce même éditeur chez Flammarion. Alors nous allons parler fraternité, mais d'abord hospitalité et de cette solidarité qui pouvait constituer jusque-là un délit, alors même que c'est une valeur qu'on nous apprend sur les bancs de l'école. Un point épistémologique d'abord, si vous le voulez bien, l'expression « délit de solidarité », c'est une expression associative, pas juridique.
Oui, tout à fait. C'est une expression qui date de 2003, qui a été utilisée par les membres du GISTI.
Le groupe d'information et de soutien des immigrés.
Voilà, exactement. Quand il s'est agi de protester précisément contre des formes d'entraide à l'égard des étrangers, s'est constitué à ce moment-là un manifeste des délinquants de la solidarité. Et ce manifeste a popularisé, entre guillemets, la notion de délit de solidarité. Ce qui fait qu'effectivement ce terme est très vite passé dans la culture populaire, entre guillemets, au point qu'on pense parfois que c'est un terme qui a une portée juridique, ce qu'il n'est pas effectivement. En revanche, il renvoie à un arsenal de lois répétées dans notre République. Dès 1938, il y a effectivement une loi qui codifie de manière très stricte l'entrée et le séjour des étrangers en France et qui empêche toute forme d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation. Et cette loi est reprise par une circulaire du 2 novembre 1945. Et au fond, on a vécu sur la crête de cette loi jusqu'à maintenant.
Aujourd'hui, ce délit est puni de 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Il concerne donc l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers. Vous ne parlez pas de migrants, Guillaume Leblanc, ni de réfugiés, mais de demandeurs de refuge.
Oui, disons que dans notre livre « La fin de l'hospitalité », nous avons essayé un peu de mettre à plat toutes les expressions, il y en a énormément, « exilé », aujourd'hui, revient énormément, « apatride ». Et on s'est tout simplement interrogé sur les raisons pour lesquelles nous nommions des individus, des réfugiés ou des migrants. Et après tout, pourquoi ne les nommons-nous pas des expatriés d'une certaine façon? On voit bien que les termes renvoient des philosophies spontanées qui se cachent dans leur dos. Et on a essayé un petit peu de déconstruire la philosophie de ces deux termes, réfugiés, migrants, qui renvoient effectivement à des divisions multiples. D'une part, on a tendance à penser que le migrant est un individu qui fuit pour des raisons économiques alors que le réfugié fuit pour des raisons politiques. Mais cette construction impeccable sur le papier est complètement bouleversée dans le réel quand nous sommes allés à différents endroits, à Calais par exemple. Nous avons vu des individus qui étaient à la fois des réfugiés et des migrants précisément.
Oui, c'est bien de s'entendre sur la manière de parler d'elles et d'eux parce que tout le malentendu ne vient-il pas de là? C'est-à-dire que ceux qui les aident, les considèrent comme demandeurs d'asile alors que les autorités en parlent comme des personnes en situation irrégulière.
Oui, les autorités d'emblée, en quelque sorte, apposent le sceau de l'irrégularité à certaines existences qui n'ont pas le droit de se déplacer, de séjourner dans un autre pays que le leur, alors que effectivement les personnes qui les aident les considèrent d'abord comme des personnes dans le besoin. Et c'est pourquoi nous sommes revenus à la notion de demandeur de refuge. C'est que il nous est apparu effectivement que ces déplacés, entre guillemets, la première chose qu'ils demandent, c'est un refuge, c'est un abri. Et la question de l'hospitalité, en ce sens-là, elle surgit de façon très concrète. Sommes-nous capables ou non d'entendre cet appel et sommes-nous capables d'y répondre par la construction, même précaire, d'un abri provisoire, c'est-à-dire de répondre répondre à une demande d'hospitalité. Contrairement à ce que l'on croit, l'hospitalité ne naît pas d'une grandeur d'âme magnanime, d'un sujet extrêmement bienveillant. Elle naît d'abord à partir d'une demande qui est faite par quelqu'un. Et cette demande, aujourd'hui, soit nous y répondons, soit nous n'y répondons pas.
Alors, on a le droit d'y répondre dans la loi si on est un proche de la personne en question, si on est une association qui aide les migrants pour l'accès aux soins, l'intégrité physique, la dignité, en opposition bien sûr au réseau de trafic. Problème, entre guillemets, pour la justice, certains n'aident pas particulièrement pour l'une ou l'autre de ces considérations, mais par militantisme. Et c'est là que ça devient préjudiciable, entre guillemets.
Oui, le terme de militantisme est apparu implicitement dans le dispositif légal de mise en place par Manuel Valls en 2012. Et au fond, la décision du Conseil constitutionnel, me semble-t-il, renvoie directement à ce dispositif de Manuel Valls, en montrant la caducité, car au fond, effectivement, dans les procès de la Cour d'Aix-en-Provence, de Cédric Héroux notamment...
L'agriculteur Cédric Héroux qui aidait non seulement au séjour, mais à l'entrée aussi.
À l'entrée également, ce qui était reconnu, c'était l'idée au fond qu'il y aurait eu un intérêt de Cédric Héroux à faire entrer des personnes clandestinement au sens où il l'aurait fait par militantisme. Ce qui est un raisonnement assez extravagant qui consiste à dire que le désintérêt de l'action humanitaire est en quelque sorte contrebalancé par l'intérêt pris de façon militante à la critique des lois contre l'immigration. Cet arrêté avait fait un peu jurisprudence et c'est contre lui que revient de manière très, très sage le Conseil constitutionnel.
Cédric Héroux, on l'entendait il y a quelques mois sur France Culture dans un très beau pied sur terre de Sonia Kronlund. Cédric Héroux qui expliquait que finalement il avait arrêté de faire du passage de frontières, comme il dit, pour se concentrer sur des missions du type humanitaire. Au départ, il avait même acheté un minibus parce que sinon, il se rendait responsable de conditions indécentes de transport, lui avait dit le procureur, puisqu'il mettait les personnes dans son petit utilitaire, là où il plaçait les œufs, en fait. Mais finalement, il a dit, j'arrête l'entrée. Et est-ce qu'on est obligé d'être dans l'illégalité pour être hospitalier? L'illégalité, c'est le passage de la frontière. Oui. Mais le séjour, qui plus est avec la décision de du Conseil constitutionnel, est autorisé aujourd'hui, l'aide au séjour.
Oui, totalement. Alors, ce qui est vraiment nouveau dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est que désormais, l'aide humanitaire et au fond, la liberté d'aider autrui à titre humanitaire est inscrite d'une solidarité fraternelle. On y reviendra, est inscrite justement dans la décision du Conseil constitutionnel. Autrement dit, il n'est plus anormal, aberrant, illégal d'aider autrui à titre humanitaire. Toute la question est de savoir quelle est la délimitation de cette aide, sur quel périmètre elle porte. Et ici, le Conseil constitutionnel a tranché d'une façon assez simple et qui sans doute portera à discussion dans les mois à venir en considérant d'une part que l'aide au séjour et l'aide à la circulation à l'intérieur du territoire national de la France est considérée comme normale, comme légitime, alors qu'en revanche, l'aide à l'entrée est toujours, elle, prohibée. Autrement dit, il y a une séparation nationale qui est en train de se constituer dans l'aide humanitaire entre l'aide à l'entrée et l'aide au séjour. Et c'est cette frontière nationale de l'aide humanitaire qu'il me semble aujourd'hui devoir forcément interroger.
La solidarité, l'hospitalité ne sont pas que le fait d'actes militants, parfois de simples particuliers, des Français anonymes qui simplement ouvrent leurs portes.
Quand j'ai commencé à m'occuper des réfugiés, j'avais qu'une table et 6 chaises. C'était pour les faire allonger à côté de la nôtre. Parce que plus que vous avez des meubles dans la pièce, moins que vous pouvez les faire allonger. Et moi, ça me suffisait. Moi, une fois que je dormais sur ma banquette de clic-clac, les uns à côté des autres, j'étais contente.
C'est exprès de pas acheter de meubles pour que les réfugiés puissent s'allonger chez vous.
Ah bah oui, parce que comment voulez-vous que je pouvais faire rentrer autant de monde, moi? C'était des garçons qui étaient fatigués, épuisés, blessés, arrachés avec les filets de barbelés. Ça avait des souffrances. Bah, vous savez que c'est quand même dur, quand même. Et il y avait une voisine, elle me dit, mais Mireille, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à manger à deux migrants? Ben, je dis, oui, je vous rendez pas compte. Je dis, nous, on a la chance, je dis, de manger correctement dans du propre, tandis qu'ils ont rien. Alors, je dis, je fais rien de mal. Celui qui s'appelait Paul, je dis, c'est pareil. Elle dit, c'est bien, elle dit, Mireille. J'ai pas baissé la tête, j'ai toujours été droit et j'ai jamais été à Boulogne, au tribunal de grande instance pour des délits que j'ai faits. Oui, parce que, la police, elle a questionné les réfugiés pour demander si je demandais pas 5 € par nuit. Ah bah tiens, madame, ah vous savez que ça va loin. Hein. Il y en a qui demandaient 5 € par nuit. Et moi, ils me disaient non, non, mamie, elle me demande rien. Et puis c'est tout, quoi, je veux dire. Alors donc, les CRS me laissaient loger les réfugiés. Parce qu'ils savaient que, ils voyaient que ça venait du fond du cœur, quoi, je veux dire. Moi, je trouve que ça, c'est l'amour, quoi, je veux dire. L'amitié, c'est...
Madame Mireille, Mireille, Madame Mireille, à Calais, rencontrée pour un épisode de Sur la route. Vous êtes allé, vous, Monsieur Leblanc, à Calais avec Fabienne Brugère. Vous êtes philosophe de terrain, finalement. Comment vous avez choisi les lieux où vous êtes allé voir comment s'incarnait cette hospitalité qui est l'objet de votre livre ?
Oui, tout à fait. On a voulu essayer de voir sur place ce qu'il en était de l'hospitalité. Donc, on a choisi comme méthode d'aller dans des lieux névralgiques de l'Europe, la frontière italienne, la frontière entre la Macédoine et la Grèce, également Calais, Grande-Synthe, Berlin, Tempelhof, hein, différents endroits pour essayer de sentir un petit peu, presque charnellement, ce qu'il en est de l'hospitalité. Parce qu'au fond, le risque, c'est toujours de produire un beau concept. Et les philosophes sont prompts à faire ça. C'est leur métier, d'une certaine manière. On leur demande qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le courage, qu'est-ce que l'hospitalité. Et nous avons essayé de mettre cette question-là entre parenthèses pour nous laisser happer par le scandale du réel, par le côté intolérable de certains lieux qui sont des lieux invivables, mais qui ne le deviennent vivables que grâce à des pratiques d'hospitalité, justement. Ce qui nous a frappé à Calais, c'est que c'est au fond un lieu qui n'est pas un lieu. C'est un non-lieu. C'est un lieu qui n'est représenté sur aucune carte, la jungle de Calais. C'est un lieu qui n'est pas indiqué sur un quelconque GPS. Vous tapez jungle de Calais sur un GPS, vous n'avez rien. Alors comment peut-on vivre dans un lieu qui n'est pas représenté, qui n'est pas appréhendé ? Est-ce qu'on ne devient pas soi-même un fantôme, un humain en attente de confirmation dans un lieu qui justement est au fond un hors-lieu.
Et les personnes donc qui créent un lieu pour ces réfugiés ou ces demandeurs de refuge, vous en avez rencontré beaucoup, des personnes qui, comme Mireille, il y a 1000 façons d'être solidaire ou d'être hospitalier.
Exactement, il y a 1000 manières d'être hospitalier de façon anonyme, comme Mireille, dans des associations. La première hospitalité, c'est ça qui nous a frappé, c'est celle que les migrants ont à l'égard des autres migrants. Les Érythréens qui accueillent les Érythréens dans l'attente, justement, d'un circuit d'hospitalité qui se crée de façon informelle dans des lieux de cette nature et qui fait que, effectivement, la vie dans ces lieux devient vivable. Et du coup, pour nous, être hospitalier, au fond, si on avait une définition toute simple à donner, on la donne dans le livre, on dirait, au fond, être hospitalier, c'est recréer un lieu par des liens pour des vies qui sont privées de lieu, justement. Car être déplacé, c'est ne plus avoir de lieu, c'est ne plus avoir de raison spatiale, donc de raison sociale. Recréer une raison spatiale pour une existence qui est en déréliction, c'est la confirmer dans son existence, c'est bien sûr lui rendre possible sa survie, et en même temps, ça demande de reconnaissance minimale sans laquelle il n'y a pas d'humanité.
On parle souvent des militants, on parle moins des bénévoles qui donnent des cours de français, des patrons de petites entreprises qui emploient des réfugiés. Certains s'improvisent famille d'accueil et puis ça peut être vraiment des tout petits gestes auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé.
How many you have?
3
mobile, 3 charge?
Yes.
Attendez, je vais lui donner son ticket. Voilà, jeune homme.
Merci.
Donc, 40 devant votre garage, puisque c'est un garage que vous avez vraiment aménagé pour charger les portables.
Là, on est obligé, mais j'en avais cet après-midi dans la maison, hein, parce que j'avais pas suffisamment de place ici. Hein. Là, je l'ai depuis un mois, ce panneau, avec ses 36 prises. Sinon, je pouvais charger 63 mobiles à la fois, mais il y en avait dans toutes les pièces de la maison. It's full.
Il se met à pleuvoir des cordes, là.
Oui, hein. Oh, come on! Run, run! Allez!
Votre garage est aussi un abri contre les intempéries.
Oui, mais il n'y a pas longtemps, parce qu'avant, on ne pouvait pas. Yes, yes. Avant, on ne pouvait pas les faire rentrer comme ça, on n'avait pas le droit. On aurait pu aller en prison, paraît-il.
Vous avez déjà eu des problèmes avec la police à l'époque où c'était encore
non, pas toléré. Que je respectais, je ne faisais pas rentrer. Donc, si, j'ai fait des choses illégales, je le reconnais. J'ai aidé aussi des gens qui sont rentrés. Allô, come on. Mais un chien qui a été pris par une voiture et qui est sur la route, on va le ramasser, on va le porter à la LPA, et un homme, non. Allô ? J'essaye de faire un gâteau de 25-30 personnes tous les jours. Ok ? I cook cake, you want cake ?
Brigitte, rencontrée à Calais, vous l'avez peut-être aussi rencontrée, je ne sais pas, Guillaume Leblanc, la question de la charge de portable, elle est intéressante. Vous parliez de recréer une raison spatiale. Les téléphones portables, ça montre que l'hospitalité, c'est plus seulement accueillir chez soi, c'est aussi permettre de rester un peu de là où on vient.
Oui, c'est vrai, c'est en même temps se permettre à des individus de rester connectés et donc de continuer à être au courant de toutes les informations informelles dont les migrants ont besoin pour passer en Angleterre, pour aller à tel autre endroit, parce que nous nous représentons le demandeur de refuge comme un être dépourvu de capacité, au fond comme un être impuissant, et c'est une grave erreur, car en réalité c'est un sujet capacitaire, c'est un individu qui justement a une connaissance du monde sans équivalent. Il a traversé plusieurs pays. Il est effectivement, comme le dirait Michel Agier, cosmopolite déjà dans sa tête et dans son corps. Et donc, il a besoin effectivement d'endroits comme le garage dont nous avons parlé à l'instant. Il a besoin d'endroits pour pouvoir recharger son téléphone. Et d'ailleurs, dans ce qui m'avait frappé dans le camp officiel de Grande-Synthe, c'est que le premier hangar était consacré à la charge des portables, justement.
Alors, Guillaume Leblanc, dans votre livre, vous défendez l'idée que la fin des politiques d'accueil des gouvernants est la fin de l'hospitalité affirmée comme un droit. Mais quand on écoute ces deux témoignages, celui de Mireille et Brigitte, on entend quand même qu'il y a une tolérance, que les policiers laissent faire, que les voisins laissent faire, quand bien même à Calais, on sait le taux de chômage, 16%, on sait que régulièrement le directeur départemental de la sécurité publique impute aux migrants un tel pourcentage de plaintes déposées. Voilà, mais il y a une tolérance, il y a une acceptation quand même.
Il y a une acceptation qui est relativement récente, parce que effectivement, avec la loi Valls de 2012, l'idée qu'on peut donner des conseils juridiques à des demandeurs de refuge, l'idée de prestations de restauration, d'hébergement, de soins médicaux, n'est plus considérée comme un délit précisément. Et c'est d'ailleurs ce dont elle vient de parler précisément. Avant, je ne le faisais pas. Maintenant, je me sens autorisé à le faire. Donc la marge de tolérance, elle a été conquise aussi par des luttes de militants, d'associations qui ont progressivement essayé de desserrer un petit peu les étaux judiciaires et carcéraux très très stricts dans lesquels ils étaient pris. Et d'une certaine façon, la décision du Conseil constitutionnel vient sanctionner aussi un état des luttes dans ce pays concernant la question de l'hospitalité. Nous nous représentons nos sociétés comme des sociétés globalement inhospitalières, parce qu'effectivement, nous avons des États, des gouvernements qui sont convaincus que l'hospitalité est un mauvais calcul. Mais en réalité, il s'agit ici d'une lutte entre des parties de société qui sont hospitalières et d'autres qui, effectivement, ont peur.
Mais les gouvernements, là-dessus, soufflent le chaud et le froid. C'est le démographe Hervé Lebras qui le soulignait récemment dans une tribune au Monde. Le sort réservé à ceux qui procurent une assistance aux migrants est assez révélateur, comme celui de Cédric Héroux à la frontière italienne ou de Martine Landry, la responsable d'Amnesty International. Ils sont alternativement arrêtés puis relâchés. Et la France, qui est toujours si fière aussi de se présenter comme le pays des droits de l'homme, sauf exception en fait.
Oui, parce qu'il s'agit en réalité d'insécuriser Il s'agit d'insécuriser les aidants et justement de faire que ceux-ci ne puissent jamais reposer en quelque sorte sur une assise juridique légitime. Et il y a une contradiction dans la justice qui est totale, puisque théoriquement la justice c'est l'idée du juste, mais en même temps c'est aussi la raison nationale qui s'exprime dans une justice.
Voilà, on poursuit la discussion. Vous restez avec nous, Guillaume Leblanc, pendant le journal. On parlera tout à l'heure du principe de fraternité mis en avant par le Conseil constitutionnel pour censurer le délit dit de solidarité.